disons donc ces jours-ci. Cela nous amène tout droit à la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Je vais vous demander d'éteindre les portables. J'entendais sonner tout à l'heure. Non seulement c'est vrai ici à Kinshasa, mais également à Goma, mais aussi à Beni, où nous avons quelques journalistes qui sont autour du général Bayo, qui est en direct avec nous et qui va donc se prêter à ce jeu de questions-réponses. Je rappelle que nous avons M. Alain Deco, bien sûr, pour cette partie-là, et mon confrère Sylvestre, qui est à ma gauche ici pour d'autres questions humanitaires, et bien sûr le colonel Amouzou qui est à Goma pour aussi d'autres questions. Une fois n'est pas coutume, laissez-moi commencer à Beni avec les confrères de la presse à Beni. Beni, c'est à vous pour tout d'abord une première question.
Merci beaucoup Charles. Alors, la première question,
Frédéric Atté Diouf de la radio Oasis Congo FM Beni. Les rebelles djihadistes d'ADF se réorganisent, tels que témoignent ces nouveaux massacres et les derniers des populations civiles en territoire de Beni. La réaction précoce, appropriée, adéquate manque en dépit de l'existence des opérations Sokola 1 et de la part des forces armées de la République démocratique du Congo et de la part des opérations conjointes MONUSCO et FARDC pour mettre fin définitivement, effectivement, à ces massacres des civils. Que dites-vous?
Général Bayou.
Moi, général.
Merci pour votre question et bonjour à tous nos auditeurs. J'étais ce matin, j'ai passé la nuit à Eric Getty et j'étais ce matin sur les hauteurs qui surplombent le village et je comprends tout à fait votre question et surtout la façon dont les gens pensent notre réponse inadéquate. En tant que responsable de la MONUSCO, je me sens tout à fait responsable. Et j'ai rencontré hier à Eringeti, nous étions en réunion avec tous les généraux et FARDC qui ont une responsabilité dans ces opérations. J'ai aussi rencontré la société civile. J'ai écouté vraiment dans tous les détails ceux qui ont connu effectivement ces attaques. J'étais aussi ce matin à Dalia et je comprends tout à fait les attentes, les critiques. Et je parle avec un grand sens des responsabilités qui sont les nôtres. Parce que ce qui est en jeu, c'est la sécurité des populations. Ce qui est en jeu, c'est malgré tout, comme vous le dites, un ennemi qui se réorganise. Et ça, c'est une réalité. Je dois rappeler peut-être à nos auditeurs, qui n'ont peut-être pas la connaissance de ce que vous avez de la région de Beni, qu'après les grandes opérations de l'année 14, les massacres ont commencé dans une phase où il n'y avait pas beaucoup d'opérations militaires. Et comme vous l'avez très bien dit, cet adversaire s'est réorganisé. Il s'est réorganisé près de zones très peuplées. Il bénéficie même, en fait, de champs qu'utilisaient les populations qui n'ont plus accès, et il constitue une menace réelle contre ces populations. Je crois que nos auditeurs doivent savoir que la région de Beni souffre de gens qui massacrent des innocents. J'ai vu, effectivement, le 4 mai matin, ces femmes enceintes, ces bébés, ces hommes qui ont été tués. Je comprends leur douleur, je la partage. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai senti dans l'interaction que j'ai avec les populations que l'espoir est là. L'espoir est là, le travail que nous avons à faire est difficile, mais il mérite la confiance et il mérite le travail de tout le monde. Le déplacement de l'état-major de Sokola 1 à Eringeti, le général Marcel Bangou était sur place hier, il y reste là-bas, est un élément important et un signe, effectivement, du sens de la responsabilité qu'ont les acteurs sécuritaires dans ce travail. La coopération militaire qui existe et qui est maintenant autorisée entre la MONUSCO et les FARDC est une réalité. Je peux vous assurer que c'est une réalité, donc il n'y a pas d'excuse par rapport à ça, c'est une réalité et c'est une nécessité. Mais ce qui est important aussi, c'est que notre travail se fasse avec d'autres acteurs. Parce que, effectivement, il y a des actions militaires qui sont impératives à conduire, mais il y a aussi un besoin que tous les acteurs puissent, effectivement, coopérer à ce problème qui est dans votre région, qui est quand même bien enraciné. Je suis venu ici aussi à Eringeti avec le chef adjoint de la police, de la MONUSCO, qui est aussi un signe qu'il faut que tous les acteurs, effectivement, puissent travailler ensemble. Voilà pour ma réponse à votre question. Je vous remercie.
Merci. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre d'abord une question. Où est le micro? On va peut-être descendre au bout de la salle avant de remonter un peu plus haut. Présentez-vous et puis une question s'il vous plaît.
Oui, Laetitia Massé-là pour le compte de la RTNT de développement. Je pose ma question, je ne sais pas au général ou bien Charles, vous allez répondre. Est-ce que c'est vrai que le chef de bureau de la MONUSCO Lubumbashi et le commandant de la police MONUSCO Lubumbashi ont été renvoyés? Si oui, pourquoi?
Je vais répondre à cette question. Pour ma part, je peux vous dire avec beaucoup de certitude que le commissaire général Awale Abdou Nassir est en poste à Lubumbashi à l'heure actuelle et dirige un peu les opérations de la MONUSCO à ce niveau. Je peux vous dire également que le chef du bureau MONUSCO de Lubumbashi, qui était en voyage de travail à Goma, est de retour ce matin même avec Monsieur David Grézelé à Lubumbashi pour reprendre ses fonctions donc à Lubumbashi. Et donc, vous savez que dans ce domaine, c'est Monsieur Maman Sambo Sidiku qui est le chef et qui éventuellement, s'il doit limoger ou démettre quelqu'un, c'est lui qui envoie les notes de service. Nous n'avons pas vu de note de service à cet effet. Et c'est pour cela que je dis, je peux vous confirmer aujourd'hui que ces deux collègues de la MONUSCO sont toujours en poste à Lubumbashi. Voilà ce qu'on peut dire. On reste sur la droite ici pour prendre une question avant de partir à Goma. Oui, avancez peut-être.
Merci Albert Omba, Numérica TV. Dans cet ordre d'idées, je voudrais ajouter à ce qui fait que si aujourd'hui le statut de M. Moïse Katumbi qui devient et qui a déclaré sa candidature à la présidence, est-ce que pourrait-il bénéficier de la protection des Nations Unies comme ce fut le cas dans les années 2006-2011?
La réponse à cette question est très claire. Au niveau global, la protection des responsables politiques n'est pas autorisée par le Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui éventuellement, je dis bien qui éventuellement, donne l'ordre de protéger telle ou telle personnalité politique. Nous n'avons pas encore reçu cet ordre, même si il y a peut-être ou sans doute des contacts à ce niveau, mais c'est pas à moi de le dire de façon précise. Ce que je peux cependant dire de façon très précise, c'est que dans le cadre général de la résolution 2277, vous savez qu'il y a une priorité donnée par le Conseil de sécurité à la MONUSCO, qui est la protection des civils. Et dans ce cadre général de la protection des civils, nous savons que nous pouvons agir et que nous devons d'ailleurs agir. Beaucoup nous reprochent justement l'inaction, par exemple, à Beni ou ailleurs sur le territoire, parce que nous ne protégeons pas les populations. Et je répète ici, donc, quel que soit le bord politique de X, Y ou Z, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la protection des civils. Et toute personne, qu'elle soit politique, qu'elle soit pas politique, est une personne humaine. Et si nous devons les protéger, dans le cadre, une fois de plus, de cette résolution un peu plus globale qui nous assigne ce rôle de protection des civils, si nous devons le faire, nous allons le faire. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que la mission des Nations Unies qui a son bureau à Lubumbashi ne fait que du monitoring et qui fait donc de l'observation sur place avec l'équipe des droits de l'homme, et c'est ce que nous faisons jusque-là et que nous allons continuer à faire d'ailleurs au cours de la session d'ailleurs qui reprend aujourd'hui au niveau du tribunal de la cour d'appel de Lubumbashi. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Avec votre permission, on va repartir à Goma parce que je vois que Goma aussi, la salle est pleine de journalistes. Goma, deux questions s'il vous plaît avant de repartir à Beni.
Oui, à gauche, prenez le micro. Ici. Allez.
Voilà. Merci Charles. C'est Moulegua pour Antena. Je vais poser ma question à Sylvestre Doucha. Et comment expliquer la complexité des choses que à Beni, il y a un déplacement à cause des populations depuis presque deux ans, mais il n'y a aucun camp de déplacés, il n'y a aucune activité de votre volet humanitaire. Comment expliquez-vous ça?
Sylvestre, quelques éléments de réponse.
Répondre à un mouvement de déplacement ne se fait pas nécessairement à travers des camps de déplacés. Vous êtes au Nord Kivu, vous prenez le cas du Sud Kivu, où il n'y a pas de camp de déplacés, mais les personnes déplacées sont assistées. Beaucoup sont assistées dans des communautés, où ils sont. Et généralement, les déplacements qui se font à Beni, ils se font vers les territoires ou les localités voisines. Et il y a des réponses qui sont organisées à ce niveau-là, dans la mesure où la sécurité dans la zone le permet.
Goma, deuxième question.
Moi, c'est Jérémy. Je vais poser ma question à Charles Bamara. La dernière fois, Omar Kavota de la société civile, avec son organisation, bien sûr, a demandé qu'on puisse détacher la brigade d'intervention à la MONUSCO. C'est ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, selon mes sources de la MONUSCO, et que il y a un problème de hiérarchie. L'administration militaire, ça va très lentement. Donc, au lieu qu'une troupe qui est tout près des ADF attaque, il faut que le commandement vienne de Goma et Kinshasa. Alors, moi, j'aimerais demander, parce que les accusations de la population, qu'on a attaqué la population à 3 km près de la base de la MONUSCO. Est-ce que n'est-il pas nécessaire maintenant qu'on puisse détacher les FIB de l'administration militaire, qu'elle soit autonome?
J'aimerais être général, mais je ne suis pas général. Je vais laisser donc la question au général Bayo. Général, c'est à vous, à Beni.
Merci pour votre question. Je dois quand même dire très clairement que la brigade d'intervention fait partie intégrante de la MONUSCO et fait partie intégrante de la force de la MONUSCO. Sans le soutien d'autres organismes de la MONUSCO, la brigade d'intervention ne pourra pas travailler seule. Il faut malgré tout une administration, même si on n'aime pas ça. Il faut de la logistique, il faut des moyens de renseignement, il faut de la mobilité. Il faut aussi de la sécurité et une capacité à travailler avec d'autres. Donc, je suis désolé de dire un petit peu le contraire de ce qui est suggéré, c'est-à-dire qu'au contraire, on va vers l'encouragement à travailler ensemble. J'ai passé toute ma journée d'hier et ma matinée avec les acteurs, avec le commandant de la brigade d'intervention, mais aussi avec les officiers des FRDC et d'autres acteurs, de manière à renforcer la synergie et répondre justement aux problèmes de réponse jugés tardifs et que j'accepte tout à fait, de manière à régler ces problèmes. Nous sommes obligés, en fait, en tant que force de maintien de la paix, de travailler avec une organisation qui a ses avantages et ses défauts. La réussite dans votre pays, c'est la complémentarité. C'est pour ça que j'insistais aussi bien sur la question de la coopération. C'est vraiment en travaillant ensemble qu'on sera plus efficace. Donc l'heure n'est absolument pas au détachement de la brigade d'intervention. Ce que nous attendons, ce que j'attends en tant que responsable militaire, c'est davantage d'efficacité de toute la force de la MONUSCO et en particulier de la brigade d'intervention qui a un mandat aussi offensif et qui doit le réaliser pleinement avec le soutien de tous les acteurs.
Nous restons à Beni pour prendre une question à Beni, s'il vous plaît.
Oui, c'est à vous, madame.
Oui, Belinda Kamala de l'Oasis Beni. Ma question se pose au coordinateur humanitaire. On ne sent pas l'implication de l'humanitaire, des humanitaires dans la prise à charge de la population illustrée, dans la zone souvent attaquée par les ADF. Alors, pourquoi ce manque d'intérêt?
Pourquoi ce manque d'intérêt, Sylvestre?
Non, il n'y a pas un manque d'intérêt à quoi que ce soit. Il y a eu des missions d'évaluation dans la zone et je n'ai pas la date en tête, mais il y a quand même une dernière mission qui est allée dans la zone. S'il y a des missions d'évaluation qui sont diligentées, c'est dire qu'il y a quand même un intérêt pour assister à ces personnes qui sont déplacées dans la zone de Beni. Il y a des réponses qui ont été apportées. Peut-être j'ai pas les détails de toutes ces réponses-là. On peut vous les faire parvenir, mais il y a des réponses qui ont été organisées. Il n'y a aucune portion des personnes vulnérables qui est négligée. Évidemment, cela se fait dans la mesure où la sécurité dans la zone est garantie et dans la mesure où aussi les moyens sont disponibles.
Nous restons toujours à Beni pour une autre question avant de revenir à Kinshasa.
Voilà, merci. C'est Erika Soumouissi de la voix de l'IOS. La région de Béni, nous le savons que c'est une région assanglantée. Et lors de la récente incursion de présumés rebelles ougandais ADF en localité Baonga-Tuluna, je vais parler de Ringeti, la population accuse haut et fort les forces de la mission des Nations Unies de ne pas avoir intervenu en Tahiti. Je voudrais savoir si nous avons ici les commandants de forces avions de la mission des Nations Unies au Congo, si les faits sont avérés. Cela a été dit à quoi? Parce que si les faits sont justement avérés, la population et les forces de la mission des Nations Unies au Congo risquent vraiment de vivre en chien des défenses.
Général Bayou, votre réponse, est-ce qu'il y a eu vraiment un manque de réactivité de la force de la MONUSCO lors de ces différents événements à Béni?
Je pense que cette question, elle est posée à Béni. Elle est posée par des gens qui sont très proches de ceux qui ont vécu ces attaques. Et je pense que les gens qui ont vécu ces attaques ont toute autorité pour trouver la réponse trop tardive. Et je l'accepte totalement. Je suis responsable de la force actuellement et je me suis rendu sur les lieux, je connais très bien les lieux. Il faut aussi dire que l'adversaire est sorti, on va dire, de la forêt, hein, vraiment, il est sorti de la forêt pour aller attaquer et il est retourné tout de suite dans la forêt, c'est un terrain assez difficile. Mais ce qui compte effectivement, c'est la coordination et la détermination des acteurs engagés et déployés là pour la sécurité, de faire leur travail. Donc je peux vous assurer qu'avec nos amis de l'FRDC, on ne s'est pas menti, on regarde les choses, on regarde la situation, et surtout on est là pour régler les problèmes, les choses qui doivent être améliorées. Ça c'est notre responsabilité. Mais j'ai aussi encouragé malgré tout les gens qui sont dans la peine et qui sont effectivement, qui observent effectivement ce manque de réactivité, de ne pas non plus tomber dans un désespoir. Ce qu'il faut au contraire, c'est renforcer notre travail ensemble et renforcer aussi la confiance. L'adversaire, les criminels qui tuent des gens, et je les ai vus, ces victimes, ils cherchent à démobiliser les différents acteurs. Ils cherchent à séparer la population des acteurs sécuritaires. Ils cherchent aussi à donner une image qui ne permettrait pas aux différents acteurs de garder l'espoir. Il ne faut surtout pas que cette approche soit dénuée de succès. Il faut qu'au contraire, on se remobilise. Et je peux vous dire que pour les militaires, c'est une vraie responsabilité parce que ce combat est difficile et il faut le mener jusqu'au bout.
Voilà, nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux questions. On peut rester effectivement sur la droite. Je rappelle que nous avons un invité, M. Alain Deco, qui est venu nous parler des 10 ans de ce fonds humanitaire d'Ucha pour la RDC. C'est à vous.
Moi, c'est M. Alain Ouikani pour l'agence des pêches Chine Nouvelle. Je reviens peut-être avec une question au général. Général, il y a quelques mois ou l'année passée, vous avez dit que l'ADF n'avait plus de territoire qu'il contrôlait, mais aujourd'hui vous dites que l'ADF est en train de se réorganiser. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse se réorganiser lorsqu'on n'a pas de territoire qu'on contrôle ou bien des portions de terre qu'on contrôle? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la capacité de l'ADF à se réorganiser? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la MONUSCO et du gouvernement qui est votre partenaire de localiser là où l'ADF est en train de se réorganiser? Merci.
Général.
Bon, je ne peux pas publiquement donner un certain nombre d'analyses qui pourraient éventuellement servir à ceux qui constituent une menace pour la sécurité de la région, mais je pense que tous les observateurs et tous les gens de la région se sont bien rendus compte qu'au fil des décennies, ADF a muté, s'est en permanence adapté aux actions qui étaient menées contre le public. Et ce que je ne veux pas sous-estimer aujourd'hui, c'est le risque qu'il représente pour les populations, parce que je suis persuadé que en relâchant notre effort, nous allons donner aux populations de Béni une situation sécuritaire encore pire et bien sûr inacceptable. Alors, peut-être pour corriger ce que j'ai pu dire auparavant, je pense que malgré tout, ADF conserve des sanctuaires, reste quand même dans le parc restent près de la frontière ougandaise. Ce sont des choses que l'on observe bien, mais aussi utilisent totalement le terrain au-delà de la limite avec l'Ituri, où il y a également des forêts et où aujourd'hui il est actuellement très actif. Donc la réponse à ces problèmes, et je ne veux pas faire de long développement aujourd'hui pour nos auditeurs, la réponse à ce problème, elle a un volet militaire qui est très important, mais elle doit surtout aussi s'intégrer dans un véritable effort, et un effort qui comporte des dimensions aussi autres que militaires.
Nous restons ici pour prendre une autre question avant de nous rendre... avant de nous rendre à Goma, il y a beaucoup de mains aujourd'hui à Kinshasa. Allez-y.
Oui, merci. C'est Marthe Bostoindolé pour l'agence France Presse. Ma question au général Jean Bayo. Général, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que les opérations militaires sont en cours? Est-ce que la MONUSCO, les casques bleus de la MONUSCO appuient les FRDC dans la région de Beni? Est-ce que c'est un appui logistique ou bien c'est un appui feu? Merci.
Général.
Merci pour votre question. C'est un appui qui va au-delà de la logistique. Dans le cadre de notre mandat et dans le cadre de la participation de la brigade d'intervention, nous avons entrepris déjà depuis pas mal de temps des actions directement de neutralisation de cet adversaire et nous allons les poursuivre et les intensifier. Donc pour être très clair, c'est pas uniquement une action logistique, c'est vraiment une action conjointe en appui des FRDC, c'est une action militaire totale, on va dire, dans ce domaine.
Voilà, merci. Je crois que nos auditeurs de Radio Okapi vont nous quitter d'un mois à l'autre, mais nous allons continuer cette conférence de presse. Kinshasa, laissez-nous aller à Goma. Sinon, ils vont se plaindre et il me faut prendre deux questions à Goma avant de revenir ici. Goma, c'est à vous. Vous faites des jaloux à Kinshasa, à Goma. Allez-y.
Ok. Madame, et puis après, allez-y.
Moi, c'est Brigitte Makuta, journaliste et correspondante à RTVS 1. Ma question s'adresse au général Bayo. Dans ses derniers propos, il avait promis que, et avec le FARDC, donc la MONUSCO et le FARDC, vont neutraliser les ADF. Mais aujourd'hui, les ADF, je peux dire, est-ce qu'ils résistent aux nouvelles tactiques comprises la MONUSCO et le FARDC? Merci.
Général Bayo.
Merci. Je pense que j'ai quand même bien aussi dit dans le passé, et de manière, je pense, répétée, que c'est un combat qui va être long, qui va exiger des sacrifices, en particulier parce qu'il ne s'agit pas d'un combat classique. Encore Eric et puis on faisait le parallèle avec le M23. Le terrain est différent, l'adversaire est différent. Il y a un enracinement, il y a une utilisation du terrain, il y a aussi une façon sauvage de combattre. Qui coûte, il faut le rappeler aussi, la vie de certains militaires et de civils, ça on le sait parfaitement, pratiquement chaque jour. Donc c'est un combat qui va être extrêmement long à mener. Mais la reprise de la coopération et le contexte actuel, et aussi malheureusement les actions contre les civils qui nous imposent un devoir doivent être le socle d'une concentration des efforts, d'une unité d'efforts et d'un meilleur épaulement de l'action du gouvernement et de ses institutions par la MONUSCO.
Nous restons à Goma pour une autre question.
Oui, c'est Norbert Mundulo pour le journal L'Emergence. J'ai rejoint mon confrère de Beni sur sa question. Je la relance pour plus d'explications. Le colonel ne cesse d'appeler la population à collaborer. Et là, la population l'a fait. Malheureusement, la réaction n'a pas suivi. Ma question est de savoir que l'autocritique que vous faites, vous, MONUSCO, pour ce nouveau échec qu'enregistre le couple MONUSCO et FARDC. Merci.
Général Bayou, je vous laisse la question.
Oui. Je souhaite répondre parce que je souhaite répondre à cette question, mais je veux aussi Je veux assumer effectivement la partie de la responsabilité de l'échelle dont vous parlez, mais je veux aussi que l'on n'oublie pas ceux qui commettent ces crimes. Je veux aussi qu'on n'oublie pas que ceux qui commettent ces crimes le font aussi d'une manière qui défie malgré tout l'organisation et les méthodes de travail de toutes les armées du monde. Nous respectons le droit, nous respectons des principes, nous sommes aussi les Nations Unies et nous avons un devoir effectivement exemplaire d'attitude dans l'exécution de nos actions. Cet adversaire fait exactement le contraire. Cet adversaire utilise toutes les façons possibles de se dissimuler dans la population, d'utiliser des uniformes des FARDC, de cacher ses intentions, d'utiliser certainement des gens qui les renseignent parfaitement, alors que nous n'avons pas cette capacité. Alors, je dis ça parce que je pense que c'est important quand même de rappeler le contexte, avant de venir effectivement à notre devoir. Donc, prenons ça comme un échec. Moi, je prends ça comme effectivement un devoir de relancer non seulement la coopération, mais aussi de manière conjointe entre forces militaires et avec d'autres acteurs, le développement de procédures et de capacités effectivement à répondre très clairement à nos devoirs. Pour terminer simplement, je me suis rendu sur place, nous avons travaillé avec les FARDC, nous donnons des ordres, et ce que nous attendons maintenant, c'est l'exécution de notre mandat de protection des civils qui nous impose de dissuader, de prévenir et de stopper la menace. Je reconnais que de ce point de vue, Ayring Gethi le 3 mai, ça n'a pas été bien fait.
Je voudrais préciser à la suite du général que dans le cadre du droit humanitaire international, les différentes forces belligérantes sur le terrain ne doivent pas s'en prendre gratuitement aux populations civiles d'une région donnée. J'espère que j'ai bien dit, nous avons des spécialistes de l'humanitaire ici qui peuvent confirmer cela. Et donc ça c'est déjà une faute grave et c'est pour cela que nous appelons ces ADF des terroristes, parce qu'ils terrorisent effectivement les populations civiles, non seulement du Grand Nord, mais aussi en débordant un peu dans les régions voisines. Voilà un peu ce qu'on peut dire, on va revenir donc à Kinshasa, donner le micro juste là à côté de la dame d'abord. Je vois que... Ah bon. La dame était très gentille, elle a passé au monsieur.
Voilà. Monsieur Charles, ma question s'adresse au général. Mon général, permettez que toutes les questions convergent vers vous. Vous dites ça de la RTNC. On a annoncé la semaine passée l'arrestation du général Mujambere, numéro 2 de FDLR, ce qui n'a pas été confirmé par le colonel tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Ma question est celle de savoir comment expliquer que le général soit arrêté au cours d'une opération de routine effectuée par la police alors que plusieurs opérations de grande envergure, MONUSCO et FARDC, se sont déroulées alors que celui-ci passait inaperçu. Voilà donc ma préoccupation par rapport à cette arrestation. D'abord, nous confirmer si effectivement il a été arrêté et qu'on peut respirer maintenant la paix dans la partie nord du pays, disons est du pays.
Oui, général Bayou, s'il vous plaît.
Bon, si vous permettez, je pense qu'il y a des volets en réponse à vos questions qui doivent être répondus par les autorités de votre pays, parce que c'est eux qui ont procédé à ces arrestations. Moi, je pense que je peux confirmer que, de très bonnes sources, cette personne a été arrêtée. Les circonstances, je ne veux pas moi-même les communiquer, parce que je pense que c'est aux autorités de votre pays de le faire. Mais c'est une information très importante. Parce que même s'il n'est pas réellement le numéro 2 du FDLR, il occupait une position très importante dans cette organisation. Vous dites, est-ce qu'on peut maintenant respirer? Il reste encore, bien sûr, des leaders du FDLR, dont au moins un est fait l'objet d'un mandat de la Cour pénale internationale. C'est une information très importante. Et comme vous le savez, nous avons, dans notre mandat de la MONUSCO, une priorité, on va dire, accordée en particulier au FDLR. Donc ça, c'est une chose importante. L'ADF est très important, le FDLR est très important. Donc je pense que les actions militaires et autres vont se poursuivre pour la neutralisation de ces responsables Et ce que nous pouvons faire, comme l'a déjà dit le porte-parole de la force, c'est d'encourager les combattants, les petits, à ne plus soutenir ces chefs, à se désolidariser, à ne pas tenir aussi un certain nombre de populations en otage, à déposer les armes. Il y a un processus de désarmement, le PNDDR3, qui est prêt à les accueillir.
Merci. Question alors maintenant, madame.
Madame Christiane Ekambo du journal Le Journal des Nations.net, online et Africa News. Ma question s'adresse à monsieur Alain Ducot. Je voulais savoir qu'est-ce que le fonds humanitaire LRDC peut attendre du sommet d'Istanbul, le sommet mondial humanitaire qui va se tenir à Istanbul, qui a été convoqué par le secrétaire général Ban Ki-moon, au moment où en RDC, il y a des destructions des camps, donc il y a eu des camps, des déplacés qui ont été fermés. Il y a des déplacés qui sont aujourd'hui à la débandade, qui sont à clair de la lune. Comment est-ce que le fonds peut espérer avoir quelque chose, une bonne réponse de la part des donateurs qui vont se retrouver à Istanbul?
Merci beaucoup pour votre question. Je dirais, au-delà du fonds humanitaire RDC à proprement parler, c'est tout l'ensemble de la communauté humanitaire qui attend énormément de ce sommet mondial. C'est la première fois en plus de 40 ans qu'un sommet mondial est consacré à l'humanitaire. Et c'est clair qu'on espère à travers ce fonds, à travers ce sommet, arriver à remobiliser ou à mobiliser pas seulement les donateurs. C'est clair qu'on doit remobiliser les donateurs, notamment par rapport à des crises comme la crise du Congo, qui est une crise complexe et prolongée, on estime qu'elle a une vingtaine d'années d'existence, mais aussi de pouvoir mobiliser des ressources humaines, des ressources techniques pour pouvoir répondre différemment. Le contexte est différent au jour d'aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans, donc répondre différemment aux différents problèmes qui sont soulevés ici au niveau de la RDC. Je rappelle juste que la RDC est un des pays qui a été visité par le secrétaire général en marge de ce sommet humanitaire mondial. C'est bien pour montrer l'intérêt que le secrétaire général porte sur la crise humanitaire en RDC et qu'effectivement l'humanitaire et la RDC seront présents au sommet mondial, je pense et j'espère, au plus haut niveau qu'il soit.
Dernière question peut-être ici avant de voir. Oui, allez-y.
Merci. Patrick Bouindombe pour le camp de la Radio Centrale FM. J'aimerais poser ma question aux gens du bureau conjoint de Droits de l'Homme, s'ils sont là.
Un peu plus fort, on vous entend mal.
Merci. J'aimerais poser ma question aux gens du bureau conjoint de Droits de l'Homme, s'ils sont là. Le climat politique actuel de la République fait craindre les journalistes. Le cas le plus récent, c'est ce qui vient de se passer hier, concernant également l'affaire Moïse Katumbi à Lubumbashi. Il y a l'un de nos collègues journalistes du Top Congo qui a été appréhendé par la justice ou par les agents de renseignement du pays, de la République, sous prétexte qu'il soutienne Moïse Katumbi, qui est accusé par la justice congolaise. On lui a soutiré de l'argent, on lui a pris son matériel, ainsi de suite. Alors cette logique du pays fait craindre les journalistes. Est-ce que la MONUSCO ou les Nations Unies ne comptent que rester dans des dénonciations ou encore il y a des mesures prises pour la sécurité des journalistes en cette période? Merci.
Comme je le disais, les collègues des droits de l'homme ne sont pas là, mais de façon globale. La MONUSCO a un mandat de protection des civils et les journalistes font partie des civils. Et pour tout ce qui concerne ces violations des droits de l'homme, le Conseil de sécurité, dans la dernière résolution 2277, l'a dénoncé, a rappelé aux autorités qu'elles devaient garantir l'existence des espaces non seulement politiques mais pour exercer les libertés individuelles et collectives dans le cadre du travail notamment de journalistes, et je pense que ce message est passé, sinon effectivement nous le rappellerons. Pour ce qui concerne le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, vous savez qu'ils ont un rapport mensuel dans lequel ils dénoncent, c'est vrai, les violations un peu plus générales des droits de l'homme, mais aussi les violations des droits politiques, mais aussi les violations des droits des journalistes. Ils vont continuer à le faire car ils ont un mandat pour cela. Pour ce que vous dites, est-ce qu'on va faire plus? Ce que nous faisons plus, effectivement, c'est dans les bons offices. de la MONUSCO vis-à-vis des autorités gouvernementales. Nous avons des rencontres régulières et je peux dire aujourd'hui, par exemple, Monsieur Maman Sambo Sidikou rencontre une personnalité du gouvernement, enfin de l'État, et au cours de ce genre de rencontre, il aborde l'ensemble de ces questions. Et en tant que journaliste, je peux vous garantir qu'il aborde réellement et très souvent les questions liées à la profession de journalisme. Donc je peux vous assurer que c'est pas des questions que nous négligeons, que nous ignorons, nous faisons vraiment attention à cela. Et nous avons d'ailleurs l'unité électorale de la MONUSCO, la section électorale de la MONUSCO, qui lui répertorie réellement une fois par mois, toutes les violations faites à l'encontre des journalistes sur l'ensemble du territoire et le passe donc pour information au représentant spécial qui prend acte et qui essaie de voir comment agir sur le terrain. Voilà un peu ce que je pouvais dire question qui met un terme à cette conférence de presse. Merci aux collègues de Béni, aux collègues de Goma et aux nombreux collègues de Kinshasa d'avoir assisté à cette conférence et à la semaine prochaine.